Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. »
Merci, chérie. On m'a demandé de mentionner s'il y a des enfants qui sont encore avec nous. Il y a un spécial pour les enfants ce matin. Juste monter à l'étage, je sais qu'ils faisaient un espèce de brunch spécial pour les plus jeunes. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, le jour où tu as conduit tes disciples, où tu les as obligés à monter dans cette barque, tu voulais te révéler à eux, Seigneur. Tu voulais te manifester à eux. Et pendant qu'on chantait ces chants tout à l'heure, Seigneur, je réalisais dans mon propre cœur combien j'ai encore besoin que tu te manifestes à moi, Seigneur. Combien j'ai besoin encore d'être saisi par ta beauté, par ton amour, par ta grâce, par ta puissance. Combien j'ai besoin, Seigneur, que le message de ta venue bouleverse encore mon cœur, Seigneur, afin que je devienne comme toi, afin que je devienne ce disciple rempli de compassion dont Normand nous a parlé la semaine dernière, afin, Seigneur, que j'appréhende les choses de la vie avec ton regard de foi, Seigneur, avec cette confiance parfaite dans mon Père Céleste. Je te prie de venir nous rencontrer ce matin, Seigneur. Conduis-moi, conduis tout ce qui sort de cette bouche, que ce soit là pour révéler ta personne, Jésus-Christ. Et viens par ton Esprit Saint, je t'en prie, appliquer ces paroles à nos cœurs, à chacune des situations de nos vies. Là où nous sommes, Seigneur, dans l'épreuve, dans la joie, dans la douleur, dans le trouble ou dans l'abondance. Viens, Seigneur, appliquer ces choses par ton esprit, car tu dis que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir fait son effet, Seigneur. Mais viens nous préparer pour ce temps des fêtes à découvrir à nouveau et davantage Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un beau passage. C'est un passage un peu troublant pour quelqu'un qui n'est pas tellement familier avec la personne de Dieu, avec la personne de Jésus-Christ. Dans ce passage, on voit que Jésus envoie volontairement ses disciples dans l'épreuve. D'accord? Matthieu nous dit, aussitôt après, il obligea ses disciples. Le mot est assez fort ici. En anglais, on peut le traduire par « compel ». Il les a contraints. Le mot grec est très fort. Il les a littéralement obligés. Maintenant, il faut comprendre le contexte pour voir que c'est un petit peu étrange. Les disciples étaient les disciples d'un maître à l'époque étaient là pour le servir, étaient là pour prendre soin de lui, apprendre de lui, mais devenir en quelque sorte ses serviteurs. Et là, il y a cette foule qui est là, qui est après Jésus, puis Jésus leur dit « Non, non, les boys, embarquez dans le bateau, partez en avant, je vais aller vous rejoindre, je m'occupe de la foule. » On pourrait croire que Jésus veut enfin son temps à l'écart. La semaine dernière, dans le passage qu'on a vu avec Normand, il était mentionné que Jésus voulait se retirer à l'écart, puis on a vu toute la compassion. Normand nous a amené ça avec tellement de beauté. On a touché à la compassion de Jésus qui était fatigué certainement, mais qui est arrivé devant cette foule et qui a été ému de compassion. Et il a reporté son temps à l'écart. Alors, on pourrait être tenté de croire que tout ce que Jésus veut faire ici, c'est avoir enfin son temps de prière avec son Père céleste. Mais il y a plus que ça. Jésus avait autre chose en tête. Jésus les oblige à partir parce qu'il sait, et il faut connaître Jésus pour avoir cette conviction, mais les évangiles sont tellement clairs, il sait qu'il va aller les rejoindre en marchant sur les eaux. Jésus veut les placer dans une situation qui va être dramatique, dans le sens qui va être théâtrale, qui va être frappante, qui va être choquante, qui va les bouleverser parce qu'il veut se faire connaître à eux. Jésus les envoie dans ça. Et tout probablement, Jésus savait que la mer allait être extrêmement difficile. Probablement qu'il le savait. Matthieu nous dit que ces hommes-là ont ramé toute la nuit. C'est pas une mer comme nous on les conçoit, c'est pas un océan cette affaire-là. Mais c'est seulement à la quatrième veille, entre 3h et 6h du matin, que Jésus va aller les rejoindre. Alors, ces hommes montent dans la barque et rament toute la nuit. Matthieu nous dit que les flots étaient contraires. Les flots étaient difficiles, ils étaient agressifs contre eux. Jésus les a obligés à aller dans l'épreuve. Jésus avait quelque chose derrière la tête. Il a conduit volontairement ses disciples dans l'épreuve. Pourquoi est-ce que Jésus place ces hommes-là dans cette situation? À partir du moment où tu crois en Dieu, où tu adhères à la foi chrétienne, tu commences à connaître Dieu, puis tu découvres en Dieu un Dieu souverain, un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, n'est-ce pas? Mais cette question-là, pourquoi est-ce que tu m'as placé dans cette situation? C'est la question que nous nous posons tellement souvent. Voyez-vous, si vous ne croyez pas dans l'existence de Dieu, vous arrivez dans une situation puis vous dites, bon, mais on va faire avec. Mais quand tu crois en Dieu, on va faire avec, mais on va faire avec quoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi tu me places dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Si tu crois que Dieu est souverain, tu arrives dans une situation qui est inconfortable, tu perds ton travail, il y a un conflit avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, tu arrives dans un nouveau groupe, il y a quelqu'un avec qui tu peux pas t'entendre. Pourquoi, Seigneur? Tu l'as mis là. Qu'est-ce que tu veux? C'est la question qu'on se pose. Et à cette question-là, il y a toutes sortes de réponses. Il y a presque autant de réponses que de situations. Le Seigneur t'a placé là parce qu'il veut t'apprendre à aimer. Il veut t'apprendre à pardonner. Il t'a placé là parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de l'Évangile et c'est pour ça que t'es dans une situation inconfortable. C'est parce que ça prenait une situation de crise dans sa vie à lui pour qu'il puisse être ouvert, que son cœur commence à s'ouvrir. Et c'est peut-être juste pour ça que t'es placé là. Il t'a placé là parce qu'il veut t'apprendre à marcher par la foi. Il y a plein de réponses à cette question. Finalement, il y a autant de réponses qu'il y a de leçons à apprendre comme disciple de Christ. Non? Il y a toutes sortes de réponses. Mais en même temps, il y a une leçon que Dieu veut presque toujours nous apprendre à travers toutes les épreuves. Il y a une réponse qui revient presque dans toutes les épreuves. Dieu nous place dans des situations semblables, dans une épreuve, parce qu'il veut nous amener à expérimenter qui il est. Dieu nous place dans une épreuve, non seulement parce qu'il veut m'apprendre à pardonner, mais il va me ramener à la croix puis il va me rappeler que lui m'a pardonné. Dieu veut me révéler qui il est et il veut me le révéler d'une manière que ce soit vécu, que ce soit senti, que j'expérimente la personne de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait ici avec ses disciples. Il les place dans une épreuve pour qu'ils expérimentent qui il est vraiment. Voyez-vous, on parle de la vraie connaissance. C'est comme s'il y a deux sortes de connaissances. Il y a la théorie, puis il y a la vraie connaissance, celle qui est vécue, celle qui est expérimentée. Ici, on parle de la vraie connaissance. Et il n'y a rien de plus précieux que de savoir, non seulement avec la tête. Et si vous avez traversé des épreuves dans l'année 2008, vous savez de quoi je parle. Si vous avez appris ces leçons que le Seigneur a voulu vous enseigner, il n'y a rien comme savoir au milieu de l'épreuve, non seulement avec la tête, mais avec le cœur, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, de l'expérimenter, connaître le Fils de Dieu dans l'épreuve. C'est ça qui nous permet de passer à une connaissance qui n'est pas seulement intellectuelle, mais à la vraie connaissance de Dieu, à la vraie connaissance de Jésus-Christ. Et quelle que soit l'épreuve, ou quelles que soient les épreuves dans lesquelles Dieu vous a placé à travers cette année, probablement qu'il y a toutes sortes de leçons que Dieu a voulu vous apprendre, mais une leçon qui revient à travers presque toutes ces épreuves-là, c'est une plus grande expérience de la personne de Christ. Découvrir qui il est dans l'épreuve, afin que j'arrive à ce point où au milieu de l'épreuve, quand ça me frappe en plein visage, quand les mauvaises nouvelles pleuvent, je suis capable de m'arrêter et dire, « Seigneur Jésus, je te connais. Je te connais, Seigneur. Je sais que tu me conduis dans quelque chose de bon. J'attends, Seigneur, de voir ce que tu vas faire. » Je fais une pause dans Matthieu, on va dans l'Ancien Testament, d'accord? Quelques instants, juste pour placer ça dans tout le contexte des Écritures. Dans l'Ancien Testament, Israël, comme aucun peuple sur la terre avant, avait reçu la révélation de Dieu. Ils avaient reçu énormément de connaissances sur Dieu. Ils avaient reçu la loi de Moïse, les prophètes. En fait, j'oserais dire, même si on est dans une église qui se targue d'étudier beaucoup la parole, on a vu encore des annonces sur l'école du dimanche, tout ça, moi je pense que vous auriez pris bien des gens dans l'Ancien Testament, bien des Juifs, vous les auriez amenés ici, ils auraient sorti un tableau, puis ils auraient pu vous donner un cours d'école du dimanche, un cours de théologie incroyable. Ces gens-là connaissaient toutes sortes de choses sur Dieu. Ils pouvaient vous parler de Dieu et dire plein de choses vraies sur Dieu. Mais en même temps, si vous avez commencé à lire l'Ancien Testament, si vous êtes familier un petit peu avec l'Ancien Testament, on se rend vite compte en lisant l'Ancien Testament qu'en même temps qu'ils connaissaient Dieu, je parle du peuple en général, c'est comme s'ils ne le connaissaient pas vraiment. En même temps qu'Israël connaissait plein de choses sur Dieu, c'est comme s'ils n'avaient pas une vraie connaissance de Dieu. Et là, je parle pour Israël en général, d'accord? À tous les moments de l'histoire d'Israël, il y a eu des hommes et des femmes de foi. Tu les prenais puis tu les mettais, par exemple, dans une fosse de lion. Et là, tu voyais qu'ils connaissaient Dieu par leur réaction dans l'épreuve. Mais pensez à Israël. Dès que tu commences à lire l'Ancien Testament, tu réalises très, très tôt qu'au niveau de l'expérience, au niveau d'une connaissance profonde, d'une foi profonde, ça, c'est une autre histoire. Dès que le peuple faisait face à une épreuve, qu'est-ce qui se passait? C'était la panique totale. Pourtant, ces gens-là savaient que Dieu est bon, savaient que Dieu est fidèle, savaient que Dieu est puissant. Qu'est-ce qui se passe quand Moïse est un petit peu trop absent? Quelques jours de trop sur la montagne. Ah, Dieu nous a abandonnés. Il n'est plus là. Dieu nous a quittés. Ils prennent leur or, la jettent dans le feu. Ils demandent à Aaron de faire un veau d'or. Ils se font une idole et ils commencent à adorer. Voici, ça va être concret. C'est pas un Dieu invisible qui est parti. Voici ton Dieu Israël. Et là, ils commencent à adorer. Plus tard dans l'histoire, il y a des peuples voisins qui viennent pour les envahir, pour les attaquer. Les prophètes de Dieu arrivent puis ils disent, patientez, patientez, confiez-vous en Dieu, c'est une épreuve pour votre foi. Faites confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Panique totale, courent aux frontières, s'en vont voir d'autres peuples païens autour. Et ils leur disent, voici ce qu'on va faire. On va vous donner nos filles en mariage à vos fils. Vous allez donner vos filles à nos fils en mariage. On va prendre vos dieux, on va commencer à adorer vos idoles. Nous allons faire une alliance et vous allez nous protéger. Parce que l'Éternel nous a abandonnés. Est-ce qu'Israël connaissait Dieu vraiment? Israël connaissait plein de choses sur Dieu. Mais est-ce qu'il connaissait véritablement Dieu? Tournez avec moi dans le psaume 46. Si vous êtes assez familier pour tourner vite, autrement je vais vous lire le verset. D'accord? Alors, si vous êtes familier, je vous fais tourner là parce que c'est un verset que cette assemblée devrait connaître par cœur. D'accord? Si ce n'est pas déjà fait, commencer à l'apprendre ce matin. C'est un psaume merveilleux qu'on devrait connaître par cœur. C'est psaume 46, soit le verset 10 ou le verset 11. Il y en a qui le savent? Je m'en vais. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez. Voyez-vous, il y a savoir et savoir. Il y a tout ce qu'on peut apprendre. Et si je transpose ça dans l'expérience de cette église, on a des classes d'instruction chrétienne le dimanche matin. Mes enfants sont en train d'apprendre toutes sortes de choses sur Dieu. Mes enfants, on est en train de lire encore Le Pèlerin avec eux, puis ils sont en train de lire, ils font leur culte personnel dans un livre adapté pour les enfants d'Oswald Chambers, puis ils sont en train de lire ça. Ils viennent ici à l'instruction chrétienne. Nous, on prend des cours, on lit les Écritures, on a des programmes de lecture de la Bible. C'est absolument génial. Maintenant, il y a savoir et savoir. Et ce que Dieu est en train de dire à Israël ici dans le psaume 46, c'est « Sachez que je suis Dieu. » Il faut absolument que ça passe de là à là. Il faut que ça descende au cœur absolument. C'est pour ça que Michel nous parle des petits groupes. Je continue à l'appliquer juste dans notre contexte ici. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie de l'Église? On vient à l'instruction chrétienne le dimanche matin. On vient à la prédication. Il y a beaucoup d'informations qui nous sont données. Des fois, il y a des moments de grâce. La semaine dernière, moi, j'étais assis là. J'étais bouleversé par la prédication. Dieu m'a bouleversé par la prédication. C'était un moment de grâce où j'ai senti, Seigneur, ça passe de là à là. Il y a quelque chose qui est en train de s'appliquer. Mais je retourne dans ma semaine. Je rentre dans mon quotidien. Je rentre dans les épreuves du quotidien. Puis là, je m'en vais à mon petit groupe le mercredi. Et là, on commence à partager. Parce que il me semble que je sais des choses sur Dieu, mais quand j'arrive dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change? Et j'ai besoin d'aller dans ce groupe-là où on va discuter, puis ils vont dire, « Oui, mais Yannick, tu vois, c'est comme ça que ça s'applique. » Puis là, on va ensemble dans la prière parce que je lutte, j'ai de la difficulté à saisir par la foi ces vérités-là pour qu'ils viennent m'apporter la paix dans l'épreuve. Le calme, le repos, la vraie connaissance, le vrai savoir de Dieu. Parce qu'on sait vraiment ce que tu connais sur Dieu quand tu passes par l'épreuve. Tout le reste, c'est de la théorie. Ta théologie, tout ce que tu dis sur Dieu. Tu veux savoir ce que tu crois pour de vrai? Regarde comment tu traverses l'épreuve. Tout le reste, c'est ce que tu aimerais être. C'est ce que tu rêves d'être. C'est correct. On est dans un processus de transformation. On est en train d'apprendre, comme on va le voir ensemble. Mais ce qui est vraiment rendu comme apprentissage, c'est ce qui se passe à travers l'épreuve. Combien de temps ça me prend pour retomber sur la foi et revenir au Seigneur? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Allez pas faire des alliances avec les autres peuples. Faites-moi confiance. Je domine, je règne. Je suis une haute retraite. Mais ça prend des années à apprendre, ça. Ça prend des années pour que ça passe de la tête au cœur. Ça prend des contextes particuliers aussi. Israël croyait qu'il savait, mais c'était une connaissance théorique qui devait passer de la tête au cœur. Et le meilleur moyen... Et Dieu le sait, et Jésus le sait ici. Le meilleur moyen de faire passer ses connaissances de la tête au cœur, c'est à travers l'épreuve. Il n'y a pas de pédagogue comparable à l'épreuve. Pour faire passer toutes ces choses que nous pensons savoir sur Dieu et les transformer en expérience de Dieu, en vraie connaissance de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici avec les disciples. On vient dans Matthieu. Vous savez, tout l'évangile de Matthieu vise une chose en réalité. Bien sûr, nous annoncer le salut, mais nous annoncer et nous faire découvrir une personne. L'évangile de Matthieu, c'est le dévoilement d'une personne. Vous avez déjà vu dans des journées spéciales où on va dévoiler une œuvre d'art, et puis c'est couvert par un drap énorme, et puis progressivement, on va procéder au dévoilement de cette œuvre magnifique. C'est ça, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est le dévoilement du Fils de Dieu. C'est ça, l'évangile de Matthieu. Dieu, à travers l'évangile de Matthieu, veut nous faire saisir qui est la personne de Jésus-Christ, mais c'est plus qu'une information seulement. C'est une expérience de la personne de Christ, la vraie connaissance de Jésus-Christ, plus que des infos sur Jésus. Le Québec se prépare à fêter Noël. Le Québec sait que dans son arrière-plan, c'est la fête de la naissance du petit Jésus. Info. Tant que ce petit Jésus-là reste le petit Jésus, c'est juste de l'info. Tant qu'il ne prend pas toute la place. L'évangile de Matthieu veut nous amener à découvrir qui est Jésus-Christ. Et il y a quelque chose de spécial qui se passe dans l'évangile de Matthieu. Dieu le Père va faire entendre sa voix deux fois. Deux fois, il va faire entendre sa voix. Une fois au début, une fois beaucoup plus loin dans l'évangile. Deux fois, le Père va nous parler de Jésus pour nous dire quelque chose sur Jésus-Christ. Tournez avec moi dans Matthieu 3, simplement pour le replacer très rapidement. Ça se passe au moment du baptême de Jésus-Christ, lorsque Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Et au verset 17, après le baptême, Jésus sort de l'eau et une voix se fait entendre du ciel. C'est spécial, le Père fait entendre sa voix. Et voici ce qu'il a à dire. Il va parler de Jésus. Et il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Information sur Jésus. Celui-là, là, c'est mon Fils. Je l'aime de tout mon cœur. Ça commence déjà à donner le ton, n'est-ce pas? Est-ce que c'est tout ce que le Père a à nous dire? Sur Jésus. Dieu va faire entendre sa voix une deuxième fois. Tournez avec moi dans Matthieu 17. Matthieu 17. Le contexte, la transfiguration. Si vous n'êtes pas familier, Jésus prend trois de ses disciples spéciaux, il les choisit, ils vont sur une montagne et là, il va y avoir une manifestation. Incroyable, vraiment de l'ordre des manifestations qu'on a dans l'Ancien Testament, la dédicace du temple, des choses comme ça, c'est majestueux ce qui se passe là. Et là, il va y avoir Moïse et Élie qui vont apparaître à côté de Jésus, il va échanger avec eux. Et une deuxième fois, le Père va faire entendre sa voix du ciel. Il veut nous parler de Jésus. Il dit presque la même chose. Presque exactement la même chose. Il va juste ajouter deux petits mots tout simples. Deux petits mots tout simples, verset 5. « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voyez-vous, ce que Dieu est en train de nous révéler sur la personne de Jésus, c'est censé venir nous bouleverser. C'est pas juste des informations. Lorsque je saisis qui est la personne de Christ, ça vient bouleverser ma vie tellement que je vais m'arrêter et je vais l'écouter. Il va venir changer ma manière de penser, changer ma manière d'être, changer ma manière de réagir, spécialement dans les épreuves. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 46, l'Éternel avait dit « Arrêtez ». En québécois, on dit « les nerfs ». Dieu est là. C'est ça que Dieu est en train de faire ici. Il fait entendre deux fois sa voix du ciel. Et la deuxième fois, il dit « Arrêtez-vous, écoutez-le, réalisez qui est là ». C'est le Fils de Dieu qui vient marcher au milieu de vous. Dieu veut nous conduire à une connaissance de Jésus-Christ qui va être beaucoup plus que théorique, qui va avoir un impact dans les épreuves, dans les difficultés de la vie, qui va venir changer ma manière d'être, ma manière de louer, qui va me permettre de louer dans la contrariété, qui va me permettre de faire confiance quand les choses commencent à s'effondrer autour de moi, qui va me permettre d'aimer les gens qui ne sont pas aimables. Voyez-vous, l'objectif, c'est que je devienne comme Jésus. Et tout à l'heure, lorsqu'on était en train de louer, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé une scène cette semaine, où quelqu'un était troublé, vivait une épreuve, puis moi, j'étais pressé. J'étais pressé à ce moment-là, je n'étais pas disponible. Vraiment pas Jésus, là. OK? Vraiment pas. La personne est troublée, puis après quelques instants, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? La personne m'a juste dit, je veux de la compassion. C'est juste ça que je veux. Je suis tellement pas Jésus. Tellement pas rendu. Christ n'aurait pas fait ça. Pensez à la femme adultère qui arrive. Pensez à la femme adultère qui arrive là. C'est quoi sa réaction? Est-ce qu'il est là pour elle? Est-ce qu'il est pris dans le tourment de la vie? Pensez à Jésus qui arrive, qui est fatigué, puis il y a cette foule qui est là. Il est ému de compassion, il veut prendre soin d'eux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, parce que vous devez le découvrir et être transformé pour devenir comme lui, pour lui ressembler à lui, afin que vous soyez des disciples de Jésus-Christ, de petit Christ. Littéralement, c'est ça. Et vos réactions vont être différentes dans les épreuves. Vos réactions vont être vraiment une image de Dieu, vraiment une image de Christ, d'amour, de compassion, de charité. Mais la meilleure place pour que ça passe de la connaissance au cœur, c'est au milieu de l'épreuve. C'est là qu'on apprend ces leçons-là. Et c'est là que Dieu veut nous conduire. Et c'est comme ça que Dieu s'y prend pour nous faire expérimenter vraiment la personne de Jésus-Christ. Il va nous envoyer à travers des épreuves de la foi. C'est ce qu'il fait ici avec les disciples. Parce que la vraie connaissance de Jésus-Christ se développe à travers les épreuves. Vous voulez savoir pourquoi vous passez à travers des épreuves? Il y a plein de réponses. Mais il y a cette réponse-là aussi. Parce que Dieu veut que vous saisissiez qui est Jésus-Christ à travers votre épreuve. Alors, les disciples sont en mer. Revenez avec moi dans Matthieu 14. J'y arrive à mon texte, n'inquiétez-vous pas. Revenez avec moi dans Matthieu 14. Les disciples sont en mer. C'est Jésus qui les envoyait là. Il les a obligés à y aller. Il savait qu'il allait venir sur les eaux, tout ça. Maintenant, c'est pas la première fois que les disciples sont en mer dans une tempête. Peut-être un petit peu moins grosse, celle-là, mais dans une tempête avec Jésus. Il y a une autre circonstance où ils avaient été comme ça dans une tempête avec Jésus. Gardez un doigt dans Matthieu 14, tournez avec moi dans Matthieu 8. Matthieu 8. C'est la deuxième fois que les disciples sont en mer dans une tempête avec Jésus. Matthieu 8, 23. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. » Là, les gars commencent à avoir peur, littéralement, que le bateau coule. Et lui, il dormait, évidemment. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et ils dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, puis on a déjà vu ce passage-là dans Matthieu. Mais ici, il y a des allusions à Job 25, à Psaume 69, je crois, ou Job 26. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui nous disent que c'est Dieu qui domine les eaux. C'est Dieu qui apaise la fureur de la mer. Et lorsque Jésus s'est levé à ce moment-là dans la barque, les disciples avaient tout pour se jeter à ses pieds et commencer à l'adorer. Pensez-y, vous êtes dans une tempête. Puis tout d'un coup, il se lève, puis il commence à parler aux éléments de la nature, à menacer les flots, et il s'apaise. C'est digne de Dieu, ça. Maintenant, regardez leur réaction au verset 27. « Ces hommes furent saisis d'étonnement. » Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Et Matthieu veut nous montrer que ces gars-là sont en apprentissage. Je veux dire, ils auraient pu tout comprendre, là. Ils auraient pu tout saisir, non? Celui qui ordonne à la mer de s'apaiser. Écoute, tu te jettes à ses pieds et tu commences à l'adorer. Mais là, ils sont troublés, ils se questionnent, qui est-il? Alors, revenez avec moi dans Matthieu 14. Là, cette fois-ci, on reste là. Deuxième tempête. Deuxième moment troublant pour les disciples. Et il faut imaginer la scène, d'accord? Si vous voulez saisir l'émotion que ces hommes-là ont pu vivre cette nuit-là, il faut imaginer la scène. Les gars ont été avec Jésus toute la journée, ils ont pris soin de la foule, ils ont été là pour la foule, ils ont écouté Jésus, ils sont fatigués, Jésus leur ordonne d'embarquer, de monter dans une barque et de commencer à ramer. Ils vont ramer toute la nuit. Quand Jésus va aller les rejoindre en marchant sur les eaux, il est entre 3h et 6h du matin. Il fait noir, ils rament toute la nuit, plusieurs d'entre eux sont des navigateurs expérimentés. Ces gars-là sont fatigués. Matthieu nous dit que la mer est contre eux. Constamment contre eux. Ils n'en finissent plus d'essayer d'avancer. Et là, dans la nuit, pendant qu'ils devaient être en train de... ils voient une forme humaine qui commence à avancer sur l'eau. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment logiques. Ils disent, c'est un fantôme! Je pense que c'est ça que j'aurais dit, moi. J'aurais pas pensé que c'est Jésus qui marche sur les eaux, quand même. C'est quoi ça? C'est un fantôme! Puis là, ils paniquent. Puis là, Jésus s'approche d'eux. Et Jésus fait encore quelque chose ici. C'est subtil, d'accord? Mais Jésus dit, ne soyez pas effrayés, c'est moi. En grec, il dit, ego eimi. Les évangélistes se servent à plusieurs reprises. Ils rapportent ces paroles de Jésus parce que quand Jésus fait ça, il est en train de prétendre beaucoup de choses. Il est en train de dire, moi, je suis. N'ayez pas peur, ne craignez pas, moi je suis. Et si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, encore une fois, Exode 3, 14, Jésus est en train d'utiliser le même langage que Dieu avait utilisé lorsque Moïse lui a demandé, « Oui, mais là tu m'envoies vers le peuple d'Israël, mais s'il me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je vais dire? » Bien, Dieu avait répondu, « Tu leur diras que c'est celui qui est qui t'envoie. » Tu leur diras que c'est le grand « Je suis » qui t'envoie. C'est Dieu. Quand Jésus arrive, et là, imaginez la scène, il leur dit, « Ne craignez pas, moi, je suis. » Et au moment où Jésus met le pied dans la barque, les flots se calment. Je trouve ça tellement beau. La première fois, il avait menacé. Là, il n'ouvre même pas la bouche. Dans la deuxième tempête, il met le pied dans la barque et les eaux se calment. On a presque l'impression qu'ils sont en train de saluer le roi, saluer Dieu. Et là, les disciples vont réagir d'une toute autre manière. Parce que voyez-vous, d'une tempête à une autre, d'une épreuve à une autre, ils progressent dans leur compréhension et dans leur expérience de la personne de Christ. La première fois, ils ont dit, « Mais qui est celui-ci? » Cette fois-ci, regardez le verset 33. « Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » D'une tempête à l'autre, d'une épreuve à l'autre, ils progressent dans leur foi, dans leur expérience de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous promène d'une tempête à une autre dans nos vies, d'une épreuve à une autre dans nos vies. Parce que c'est Jésus qui les a obligés à aller là. C'est Jésus qui les a envoyés sur la mer. C'est Jésus qui les a placés dans cette situation. Ils savaient qu'il devait y avoir une manifestation dramatique, très théâtrale. Voyez-vous, les disciples étaient avec Jésus tous les jours lorsqu'il faisait des miracles. Quand il a multiplié les pains, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas garrochés à ses pieds? Tu es véritablement le Fils de Dieu. Je pense... Il va peut-être me dire que je fais de la pop psychologie, là. Mais je pense qu'il y avait quelque chose d'intense que ces gens-là vivaient dans la nuit, sur l'eau, Marcher sur les eaux, c'est un autre miracle qui en a fait plein, Jésus. Oui, mais t'es dans la nuit, puis t'as travaillé toute la nuit, puis t'as bûché, puis tu vois Jésus qui arrive. Encore une fois, les eaux se calment. Et là, il y a quelque chose qu'ils ont saisi à ce moment-là, à travers cette expérience, à travers cette épreuve, au moment où, dans la nuit, ils ont dit, « Jésus, je te connais maintenant. Je sais qui tu es. » Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec Job. Lorsqu'au milieu de la tempête, Dieu s'est manifesté à Job et Dieu n'a pas donné beaucoup, beaucoup de réponses à Job. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Parce que. Pourquoi toutes ces épreuves? Parce que je suis Dieu. Et là, qu'est-ce que Job a dit? Il a dit, avant je pensais que je te connaissais, mais maintenant je te connais. Je sais que tu es Dieu. D'une tempête à une autre, ils ont appris. Est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce qu'ils ont expérimenté Jésus-Christ en sorte à ce que n'importe quelle épreuve peut venir, puis ils sont prêts à faire face à ça, fermes dans leur foi, croient en Jésus, savent qu'il domine, qu'il règne sur les éléments, puis quand l'épreuve va venir, amène-en mes amis, je vais être ferme dans ma foi. Pas tout à fait. Ils ne sont pas rendus encore. Et Pierre est un bel exemple de ça. Ils sont en apprentissage, ils sont en train de cheminer. Ils ne sont pas rendus encore. Et Pierre ici est un bel exemple de foi. C'est pas des fois on regarde Pierre puis il nous fait un peu rire hein, parce qu'il y a une espèce d'arrogance, une espèce de fougue, même un peu bête. Puis même si on est assez humble, je pense qu'on peut se voir souvent dans Pierre. Mais ici c'est pas le cas. Mettez-vous dans la peau de Pierre. Il voit plein de choses qui se passent, qui sont fantastiques, puis ils sont fatigués. Puis là il voit Jésus qui arrive en marchant sur les eaux. Et puis là Jésus lui dit c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors, qu'est-ce que Pierre fait? Ben, Pierre, il est comme un croyant qui est en train d'apprendre à marcher par la foi, puis qui veut faire, vous savez, on a une expression chez les chrétiens, faire un pas de foi. Ben, Pierre savait c'était quoi faire un pas de foi, même deux, trois pas de foi. D'accord? Alors, c'est ça que Pierre veut faire. Pierre veut faire littéralement un pas de foi, sur les eaux en plus. L'avez-vous déjà essayé? Ça, c'est tout un pas de foi. Pierre veut faire un pas de foi. Il voit Jésus, puis il commence à réaliser la beauté, la grandeur de Jésus, puis il dit, « C'est toi, Seigneur, c'est bien, ordonne que je marche sur les eaux et que je vienne à ta rencontre. » C'est un exemple pour nous, Pierre, d'apprentissage, à faire des pas de foi. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense, je ne sais pas, j'essaie de lire à travers le texte, mais je pense que Pierre avait juste les yeux sur Jésus au moment où il a sorti le pied de la barque. Je ne pense même pas qu'il a regardé l'eau. Pierre avait les yeux fixés droit sur Jésus, puis il voit arriver, puis il dit, « Seigneur, si c'est toi, dis que je marche, dis que je viens à ta rencontre. » Puis là, Jésus lui dit, « c'est correct, il n'y a rien, c'est beau, viens-t'en. » Alors Pierre sort un pied, puis ça tient. Sharp. Continue à avancer. Et il fait deux, trois pas, je suis convaincu qu'il avait les yeux fixés sur Christ. Parce que le texte me dit qu'à un certain moment donné, Pierre a détourné les regards de Jésus. Il a détourné les regards, il a commencé à prendre conscience qu'il y a encore une tempête, le vent est là, les flots se lèvent, et il voyait les manifestations du vent qui étaient là. Et là, Pierre, tout d'un coup, a commencé à réaliser que lui, c'est Jésus, mais lui, c'est Pierre, puis une roche, ça flotte pas. Alors, tout d'un coup, il a réalisé qu'une pierre, ça cale. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il a détourné les regards de Christ, et là, il s'est mis à couler comme une roche. Et là, il s'est écrié, « Seigneur, sauve! » La semaine dernière, il y avait quelque chose de spécial dans cette compassion que Normand nous a enseignée. On a pu toucher littéralement, je crois, la compassion de Jésus. C'est ce même Jésus qui est là. Et une des leçons qu'on a à apprendre, c'est que Jésus sait qu'on est en apprentissage. Jésus ne s'est pas tourné de bord en disant, « Mon, débrouille-toi. » Pas capable de comprendre? Il fait combien de fois? Il l'a attrapé. Il a dit, t'es pas rendu encore. T'es pas rendu encore. Et il l'a amené dans la barque. Voyez-vous, nous sommes tous en apprentissage. Nous sommes tous en train d'apprendre qui est Jésus-Christ. Si vous avez donné votre vie à Christ, vous avez cru dans son sacrifice pour le pardon de vos péchés, vous avez saisi un peu de ce qu'est Jésus-Christ. J'ai le goût de dire vraiment juste un peu de ce qu'est Jésus-Christ. Mais Dieu va vous conduire, va nous conduire dans des épreuves, dans des tempêtes. Parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent que dans les tempêtes. Et à travers ces tempêtes-là, il va y avoir des moments où on va avoir le goût de faire le pas de foi. Ça se peut qu'on flanche. Ça se peut qu'on craque. Seigneur, je sais que tu es capable de me sortir de là. Puis là, les choses semblent tourner autrement. Tu as eu l'impression que tu voyais la fin, le bout du tunnel apparaître. Mais non, il y avait une courbe là-dedans, puis c'est pas fini. Et là, on va douter. Le Seigneur sait qu'on est en apprentissage. Mais il veut qu'on apprenne. Il va nous conduire dans d'autres tempêtes. Parce qu'il veut que nous arrivions à ce moment dans notre vie chrétienne où nous allons être capables de dire devant l'épreuve, « Seigneur Jésus, je sais qui tu es. Conduis-moi. » Les disciples ne sont pas rendus encore. Mais Jésus ne sera pas toujours avec eux. Hein? Ils sont en apprentissage et un jour, Jésus va partir, va retourner auprès du Père. Il va être avec eux, mais seulement en esprit. Il ne sera plus visible. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais la vaste majorité des apôtres sont morts martyrs. Il va falloir que leur foi grandisse plus que ça encore pour être capable d'arriver au jour où on va leur mettre une épée sur la gorge, on va les menacer, on va dire « Renie Christ ou tu meurs! » Et paisiblement, comme des milliers de chrétiens à cette époque-là, ils vont dire « Seigneur Jésus, je sais qui tu es. Je m'en viens. » Pourquoi est-ce que Dieu nous conduit à travers des épreuves? C'est pour que nous grandissions dans notre compréhension de Jésus-Christ, mais dans une vraie connaissance de Christ. Et il nous prépare pour d'autres épreuves, où on va être un témoignage pour des frères, pour des sœurs et pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il nous prépare aussi pour le jour ultime où je vais devoir traverser le rideau. Et peut-être que mes enfants vont être là autour de moi. Peut-être que mes petits-enfants vont être là autour de moi. Peut-être des amis vont être là. Et ils vont me regarder traverser. Et Christ veut me préparer pour qu'en ce jour-là, en chantant des louanges, je m'éteigne pour traverser et entrer dans la présence de Christ. J'aimerais ça prendre un instant pour m'adresser à nos amis ici ce matin qui, peut-être vous n'avez pas encore embrassé la foi chrétienne. Peut-être que vous n'avez pas encore saisi Jésus-Christ et il n'est peut-être pas votre Seigneur. Dans le passage qu'on a ici ce matin en théologie, on appelle ça une épiphanie. Puis en fait, si vous avez un bon arrière-plan catholique, vous connaissez ça. Une épiphanie, c'est un mot qui veut dire un dévoilement, une manifestation. Et c'est ça qui est en train de se passer ici dans le passage. Jésus conduit ses disciples dans une épreuve parce qu'il veut se dévoiler à eux. Jésus contrôle les circonstances. On voit qu'il contrôle même les éléments de la nature, mais c'est pour se dévoiler à eux. On se prépare à célébrer Noël. Et jusqu'à ce que Christ se dévoile à une personne, Noël, c'est une fête culturelle. C'est une fête culturelle où on fête la naissance du petit Jésus, où on échange des cadeaux et tout ça. Maintenant, si tu ouvres les yeux de ton cœur, est-ce que c'est possible que dans les derniers temps, Dieu t'est placé dans sa souveraineté, dans une situation difficile, délicate, troublante, parce qu'il veut se faire connaître à toi. Mon vœu pour vous, c'est que cette année, à travers une épreuve ou sans épreuve, Dieu vienne vous révéler véritablement le sens de Noël et la personne de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aime voir ta beauté dans cette tempête, cette nuit-là. J'aime voir ta grâce aussi et ta patience envers Pierre parce que je suis si petit comme disciple, Seigneur. J'ai tellement encore à apprendre à l'école de la foi pour m'écrier dans l'épreuve. Je te connais, Jésus-Christ. Je sais que tu règnes et que tu domines. Je sais que tout concourt à mon bien. Je peux te laisser mes fardeaux, mes épreuves, mes inquiétudes, sachant que tu fais tout concourir à mon bien. Seigneur, tant de fois, je suis loin de ça. Merci pour ta patience. Merci pour les épreuves, Seigneur, dans lesquelles tu m'as placé, moi, cette année. Merci, Seigneur, de m'enseigner à les regarder comme l'école de la foi. Et merci, Seigneur, tout dernièrement, de m'avoir dévoilé encore plus qui est Jésus-Christ. J'aimerais te prier, Seigneur, parce que ça prend une intervention de ton Esprit Saint, pour que tous nos amis qui n'ont pas encore embrassé la foi chrétienne puissent saisir cette année, à Noël, qui est Jésus-Christ. Saisir que tu n'es pas seulement un Dieu quelconque, mais tu es un Dieu qui est venu parmi nous, Emmanuel, en ton Fils. Saisir que celui qui a connu le Fils, Jésus-Christ, a connu Dieu le Père. Et nous venons t'adorer ensemble ce matin, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.